Chine Hebdo. Aurélie Planex sur BFM Business.
Et on poursuit ce Chine Hebdo avec notre rubrique Le patron de la semaine. Cette semaine, on accueille Thomas Alix. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes responsable du digital et du consulting pour Kerus en Chine. Alors Kerus, c'est une SS2I française positionnée notamment sur le digital et le big data, c'est-à-dire l'exploitation de données. Et vous, Thomas Alix, vous êtes installé à Shanghai depuis 6 mois maintenant. Comment est-ce que vous avez préparé cette arrivée ?
Écoutez, d'abord, c'était d'abord une envie. Hein. C'était l'envie de vivre une nouvelle expérience professionnelle et personnelle à la fois, de repartir un petit peu sur un nouveau défi. Alors, je connaissais un peu la Chine, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans cette connaissance et puis d'y travailler et d'y établir. Voilà, c'est donc maintenant chose faite depuis 6 mois. Alors, comment j'ai préparé les choses ? Très simplement. D'abord, j'ai la chance d'être dans une compagnie qui est russe, qui est implanté maintenant depuis un peu plus de 3 ans en Chine. Donc, il y a déjà l'avantage d'avoir une structure établie et existante d'environ 50 de personnes qui avaient déjà des réussites, des succès et des projets. Donc, j'ai apporté ma pierre maintenant à cet édifice pour l'aider maintenant à grandir et à accélérer.
Alors, justement, quelle était votre vision de la Chine avant d'y arriver ?
Alors, écoutez, j'ai un ami qui connaît bien la Chine, qui m'a donné un excellent conseil. Il m'a dit, pars avec le moins de préjugés possible, parce que tu vas découvrir plein de choses auxquelles tu t'attends pas, et que la Chine, tu vas voir, ça va d'abord t'apprendre des choses, ça va te montrer des choses que tu n'avais pas forcément soupçonnées. Et donc, essaie de partir, encore une fois, avec le moins d'idées préconçues. Écoute, apprends, lis, discute, échange avec un maximum de gens, et c'est ça qui va te permettre de te construire ta vision de la Chine. Donc, j'avais forcément des idées qui étaient un peu les idées communes qu'on peut avoir sur la Chine depuis l'Occident. Mais j'ai essayé de m'en déprendre le plus possible pour essayer vraiment de comprendre ce pays et puis essayer de comprendre comment ce qu'il animait, ce qu'il faisait bouger aujourd'hui et ce qu'il faisait se développer.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez appris depuis 6 mois que vous êtes sur place ?
Je dirais un premier point qui est lié aussi à mon métier, donc le digital, c'est je savais que le digital avait une importance forte en Chine, mais je pense que j'imaginais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte en vivant ici que c'est une société qui vit, qui pense, qui respire digital. Le mobile, le e-commerce, les réseaux sociaux, tout ça, ça a une place qui est vraiment capitale, qui est essentielle, qui est au centre de la société. Alors à Shanghai, bien sûr, dans les grandes villes chinoises, mais pas seulement. Ça, c'est probablement lié au fait que finalement, la société chinoise, elle a découvert le digital quasiment en même temps qu'elle a découvert la société de consommation. Et ce temps commun finalement dans la découverte entre le digital et la société de consommation, ça fait que les gens ont l'habitude et une manière de vivre qui est très digital orientée, probablement beaucoup plus qu'ailleurs. Il y a une phrase que j'aime bien qui est le fondateur d'Alibaba dont on a parlé beaucoup cette semaine, qui s'appelle Jack Ma puisqu'ils vont s'introduire en bourse, qui dit pour vous en Europe et en Occident le digital et le e-commerce c'est un canal de vente ou un canal de communication et d'échange. Pour nous, c'est un style de vie. Et je crois que c'est très vrai et qu'on le constate vraiment tous les jours en vivant dans cette société chinoise que le digital a une place qui est très importante et qui va le devenir de plus en plus.
On dit souvent que les Chinois sont même en avance sur tout ce qui est mobile. Vous constatez ça donc ?
Ils sont clairement en avance sur un certain nombre d'usages qui sont à la fois pour partie des usages spécifiques. C'est une société qui s'est développée sur le digital, j'ai envie de dire, à côté des grands modèles qui pouvaient se développer en Europe, parfois en prenant le meilleur, et puis d'autres fois en inventant un petit peu de nouveaux modèles. Et là, on voit de plus en plus une société dans laquelle il y a un certain nombre d'innovations aujourd'hui qu'on voit en Chine, qui n'existent pas ailleurs. Les réussites d'opérateurs comme, encore une fois, Alibaba ou Tencent ou Baidu montrent d'une certaine manière maintenant la voie et le chemin sur ce que pourraient faire d'autres opérateurs du digital en Occident. Par exemple, aujourd'hui, il y a un phénomène assez fort de rapprochement entre les réseaux physiques de vente traditionnels dans lesquels prennent des participations les grands acteurs du digital. C'est probablement quelque chose qu'on verra aussi en Occident et c'est la Chine qui impulse aujourd'hui ce mouvement. Un autre exemple, c'est Tencent qui aujourd'hui, avec sa plateforme qui s'appelle WeChat, dont vous avez déjà parlé dans l'émission, bien WeChat est probablement la première plateforme qui arrive à agréger sur une même plateforme le réseau social, la messagerie instantanée, la messagerie privée, et puis des plateformes d'échange et de partage de photos, y compris incluant des marques. Donc cette capacité à fusionner dans un même environnement, dans une même plateforme, des services qui aujourd'hui en Occident existent plutôt de manière séparée, ça c'est la Chine aujourd'hui qui est en train de m'inventer.
Et c'est très important j'imagine pour vous tout ça, puisque vous travaillez, vous l'avez dit, essentiellement sur le digital. C'est important donc j'imagine d'autant plus pour une société française, une SS2I, d'être présente sur le terrain.
Alors c'est fondamental puisqu'encore une fois C'est une société qui s'est développée, j'ai envie de dire, à côté, comme une deuxième autoroute. On va dire, il y a l'autoroute occidentale et puis il y a l'autoroute chinoise dans le domaine du digital. Donc effectivement, si on ne comprend pas comment les grands acteurs, les points clés, les fondamentaux de ce marché, comment il s'est développé et comment il se développe sur du e-commerce et du digital, ben ça sert à rien, entre guillemets, de venir avec les réflexes qu'on peut avoir sur les grands acteurs et les grands opérateurs qu'on peut connaître en Occident, puisque ici, ça fonctionne en partie de manière commune, mais en partie de manière spécifique. Donc si vous n'êtes pas ici, et si vous ne comprenez pas cette logique, des logiques qui sont à l'œuvre ici, à la fois pour les consommateurs et puis pour ces grands opérateurs, ben effectivement, vous allez capter qu'une partie du marché et vous allez capter qu'une partie de la compréhension du marché.
Et sur le big data, la collecte de données, où est-ce qu'en est la Chine aujourd'hui ?
Alors, sur le big data, elle est, je pense, en train de rattraper son retard. Bon, c'est un sujet qu'on a beaucoup regardé puisque c'est un de nos trois grands métiers à côté de la business intelligence et du digital. Elle est en train de rattraper son retard de deux grandes manières. D'abord parce qu'il y a une impulsion gouvernementale et des pouvoirs publics qui est assez forte. Ça fait partie des grands objectifs du dernier plan quinquennal. C'est explicitement mentionné comme tel. Ensuite, il y a beaucoup de provinces aujourd'hui qui développent et qui mettent en place des plateformes de big data. L'objectif étant pour elles de recueillir sur ces plateformes toutes les données qui sont issues d'acteurs économiques, d'acteurs sociaux, d'acteurs du domaine de la santé. L'objectif étant derrière pour elles de mieux prévoir demain, de mieux planifier les infrastructures qu'elles peuvent mettre en place et qu'elles vont avoir besoin de mettre en place pour améliorer le service, entre guillemets, qu'elles peuvent offrir aux populations. Donc, il y a également des provinces qui tendent à se spécialiser aujourd'hui et qui en fait, essayent de faire du big data un axe de différenciation. Il y a, par exemple, une province qui n'est pas très connue en Occident, qui est la province du Guizhou, dans le sud, qui est une province qui n'est pas forcément très développée aujourd'hui. La capitale, c'est Guiyang, pour ceux qui connaissent. Et bien, dans cette province, il y a déjà plus de 200 entreprises qui se sont installées autour du sujet de big data. Les grands opérateurs de communication ont installé leur plateforme de collecte et de recueil de données. Il y a des gros opérateurs du e-commerce également qui s'installent là-bas. Donc il y a plus de 200 entreprises aujourd'hui. Le prix de l'électricité en plus n'est pas très cher là-bas, ce qui est forcément important quand on opère des plateformes de ce type-là. Et puis ils ont en plus fait des accords avec des universités, des grandes universités en Chine, pour essayer de faire venir demain des professionnels de la data, ce qu'on appelle des data scientists, c'est-à-dire les gens qui vont exploiter cette donnée, qui vont faire parler ces données pour optimiser, valoriser, améliorer tel ou tel processus de l'entreprise. Et puis ça, c'est le monde, on va dire, de la sphère publique qui est assez actif sur ce sujet du big data. Et puis dans les entreprises également, on commence à voir pas mal de choses. Alors, toujours tirés par ces grands acteurs du digital, puisque c'est leur métier de valoriser et de monétiser ces données vers des tiers pour vendre des campagnes publicitaires ou autres. Ces entreprises-là digitales, donc Alibaba, Tencent et tous les autres, Jingdong, enfin les grands opérateurs qu'on peut connaître aujourd'hui, ils investissent très fortement aujourd'hui ce champ-là et ils essayent de capitaliser encore une fois sur ces données, avec quelques exemples d'ailleurs qui sont assez intéressants, puisque par exemple, Baidu, récemment, pendant les grandes vacances chinoises du Nouvel An chinois, a pu, grâce aux requêtes en fait qui étaient collectées sur sa plateforme, sur son moteur de recherche, également sur son moteur de recherche et puis également sur ses plateformes de réservation en ligne, ils ont réussi à établir grâce à ça quels étaient les itinéraires les plus populaires en Chine de voyage. Et par exemple, ils se sont aperçus qu'un des itinéraires les plus populaires, c'était entre Pékin et Chengdu, qui est une ville du centre-sud de la Chine, ce qui était probablement un peu une surprise. Demain, ça peut être une information intéressante pour les infrastructures hôtelières, pour les opérateurs de transport, pour les services gouvernementaux, pour les opérateurs aériens, de savoir que c'est aujourd'hui un itinéraire qui est très recherché par les consommateurs chinois pour améliorer donc le service qu'on peut leur proposer. Et puis un autre exemple qui est fait aujourd'hui par Alibaba. Alibaba, avec sa plateforme Taobao, donc qui est une plateforme de commerce plutôt entre particuliers, qui a plusieurs centaines de millions d'inscrits, simplement en regardant finalement les changements d'adresse des gens qui précédemment habitaient dans la campagne, dans les campagnes en Chine, simplement en regardant d'une année à l'autre quels étaient ceux qui partaient s'installer en ville et dans quelle ville ils allaient s'installer, ils ont pu par exemple constater qu'entre 2012 et 2013, les flux de migration des campagnes vers Pékin avaient significativement baissé, et à l'inverse, les flux de migration des campagnes vers Guangzhou, vers Canton, avaient significativement augmenté. Demain, information intéressante, parce qu'elle peut aider encore une fois tout un tas d'acteurs, tout un tas d'opérateurs à mieux positionner leurs services et à améliorer les services rendus. Alors ça peut être des acteurs publics, ça peut être des acteurs de santé, mais ça peut être aussi bien sûr des opérateurs privés, des entreprises. Voilà quelques exemples donc d'opérateurs, on va dire aujourd'hui, du issus du digital. Et puis derrière, juste dans les entreprises privées, vous avez bien sûr toutes les banques, ou dans les entreprises, vous avez bien sûr toutes les banques et tous les opérateurs télécoms et tous les acteurs de l'énergie qui manipulent, j'ai envie de dire, historiquement beaucoup de données, qui collectent historiquement beaucoup de données. Et eux, ils vont se servir du big data pour, par exemple, améliorer leur gestion de risque pour les banques. Mais ça peut être aussi dans le domaine des télécoms pour lutter contre ou pour favoriser, on va dire, la fidélisation des clients. Et puis dans le domaine de l'énergie, qui est un domaine dans lequel nous on a travaillé pour une compagnie d'énergie, pour une compagnie d'électricité dans le sud, grâce aux données qui sont recueillies pour demain, qui sont encore une fois des données très massives, demain peut-être réussir à mieux équilibrer la charge entre la production et la consommation. Voilà quelques exemples et voilà quelques actions qui sont faites aujourd'hui en Chine sur ce terrain du big data.
Thomas Alix, pour terminer, quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui va justement s'installer pour travailler en Chine, un monde qui est véritablement connecté, on le voit bien?
Je dirais deux choses qui peuvent paraître un peu contradictoires, mais qui à mon avis sont essentielles. C'est à la fois beaucoup d'ambition, parce que c'est un marché sur lequel il y a plein de choses à faire, qui est très dynamique, très actif, dans lequel les boucles de décision sont rapides. On est moins dans des logiques depuis l'analyse jusqu'à la conception, jusqu'à la mise en œuvre. Les Chinois ont tendance à aller plus vite. Et finalement, le temps de la conception et le temps de la réalisation est beaucoup plus entremêlé et beaucoup plus rapide. Donc, ce qui est un élément important et ce qui montre qu'il faut avoir de l'ambition sur ce marché, parce que du coup, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives qui peuvent partir dans tous les domaines d'activité. Donc, beaucoup d'ambition d'une part et puis d'autre part, beaucoup d'humilité, parce que la Chine a beaucoup à nous apprendre. Et qu'il faut d'abord essayer de bien comprendre les mécanismes qui animent cette société, la manière dont les consommateurs, dont les entreprises finalement vivent aujourd'hui et utilisent, on va dire, ces révolutions et ces services technologiques pour essayer de voir comment on peut leur proposer quelque chose. C'est probablement pour partie des choses qui sont communes avec l'Occident, mais c'est aussi des choses qui sont spécifiques parce qu'encore une fois, il faut partir de la connaissance de ce marché, il faut partir du terrain, donc ambition et humilité.
Merci beaucoup Thomas Alix, directeur digital et consulting de Kerus en Chine. Merci d'avoir été avec nous dans Chine Hebdo.
Merci.
Chine Hebdo, Aurélie Planex sur BFM Business.